Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour le commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Arveil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, nous lirons la paracha, vous allez bien?
Oui, ça va.
La paracha de Yitro, où on lira les 10 commandements. Première question, monsieur le grand rabbin, y a-t-il une obligation de venir écouter la lecture des 10 commandements demain matin à la synagogue?
Alors, c'est une question qu'on se pose chaque année. Il n'y a pas d'obligation thoraïque plus qu'elle n'existe, on va dire, lors des autres Shabbatot de l'année, à l'exception, bien sûr, je le rappelle, et de la parashat Zachor, qui est la parasha spéciale que nous lisons le Shabbat qui précède la fête de Pourim, mm-hmm. et qui nous rappelle la mitzvah, le commandement positif de la Torah, de se rappeler de ce que nous a fait Amalek.
Et même à Shavuot, il n'y a pas d'obligation.
Et même à Shavuot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'un point de vue thoraïque, c'est la même obligation, on va dire, c'est la lecture de la parashat Yitro a exactement la même importance, on va dire, que la lecture des autres Shabbatot de l'année, sauf que bien sûr, il y a une tradition, on va dire, de mettre un accent sur cette parashat Yitro, sur les 10 commandements, et on a l'habitude peut-être de sensibiliser un peu plus les enfants, parce que c'est une parashat dans laquelle il y a les 10 commandements. Donc il y a un texte qui est particulièrement important, ce même texte que nous relisons bien sûr, comme vous l'avez rappelé, au moment de la fête de Shavuot. Donc on ne peut qu'encourager les gens à venir écouter les 10 commandements et à venir à la synagogue demain pour la parashat Yitro.
Les horaires pour ce Shabbat Yitro, le Shabbat des Tunisiens, ce sera l'allumage des bougies à partir avant 17h23, avant 17h23 tout à l'heure, et la fin du Shabbat demain après 18h32. Ces horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Je voudrais, si vous le souhaitez, monsieur Raman, dédier cette émission à la mémoire de Shimon Ben Sheba, voilà, qui fête son yatzat cette semaine. Souhaiter également une refoua shelema à tous nos malades et particulièrement à Rivka Bat Mesruda, et un Shabbat Shalom particulier à tous nos aînés et personnes isolées qui sont très nombreuses à nous écouter chaque semaine, et on leur remercie. On va, monsieur Grand Rabbin, aller donc vers le résumé de cette paracha Yitro, paracha dense et importante.
Oui, une paracha très courte, hein, en réalité, très courte mais très dense, vous l'avez dit, très importante, bien sûr, parce qu'elle... Elle est, on va dire, l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Cette sortie portait en elle un projet, on le sait. Ce projet était de donner une loi à ce peuple, de lui donner une Torah. Et après donc 50 jours, voilà enfin ce moment arrivé. On rappelle que ces 50 jours ont été nécessaires pour permettre à toutes ces personnes qui étaient très éprouvées, on l'a dit, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan spirituel, eh bien, de redevenir un peuple. Hein. On l'a dit, c'est vraiment une somme d'individus qui quittent l'Égypte et qui doit apprendre à devenir un peuple, qui doit apprendre à vivre ensemble et surtout qui doit un petit peu essayer de tirer un trait sur toutes les mœurs dont ils ont pu s'imprégner lorsqu'ils étaient en Égypte. Ça prend un certain temps. Alors bien sûr, on l'a dit, hein, 49 portes d'impureté, donc 49 jours pour se détacher de ces 49 portes d'impureté, et 50e jour, le don de la Torah. Alors, le don de la Torah est au cœur de cette paracha, très courte, hein, les 10 commandements, mais juste avant, et le début de la paracha d'ailleurs porte le nom de... Enfin, la paracha porte le nom de Yitro, et tout le début de la paracha est consacré justement à Yitro. Yitro, le beau-père de Moshe, qui lui, alors qu'il n'était pas juif, même si la notion de juif n'existe pas encore, mais qui ne l'appartenait pas au peuple d'Israël, eh bien, va décider, suite à ce qu'il a entendu, suite à ce dont il s'est laissé un petit peu imprégner, porter, eh bien, va décider de rejoindre le clan d'Israël, de faire cette démarche, une démarche pas évidente, hein, de la part de Yitro, qui était, on le rappelle, un grand prêtre à Midian, la ville dans laquelle il habitait. Un petit passage par la suite qui est consacré au conseil que Yitro va donner à Moshe. Donc Yitro n'est pas simplement un acteur passif, on va dire, de l'histoire du clan d'Israël, mais c'est quelqu'un, au contraire, qui non seulement rejoint le clan d'Israël, mais qui va être en plus décisif de par les conseils qu'il va pouvoir donner à son gendre. Et puis, donc, après, tout le passage, toute la suite de la paracha qui est consacrée à toute la mise en scène du don de la Torah, très impressionnante, hein, ça se fait de manière assez spectaculaire, les 10 commandements, et à la fin de la paracha, quelques mitzvot encore, et notamment donc mitzvot concernant donc, on va avoir toutes les implications du Har Sinaï, et on termine donc notamment avec une mitzvah, un commandement qui nous indique la manière dont on doit construire l'autel et les choses qui sont à éviter, justement, à ne pas faire.
Alors, on va parler justement des trous, vous le disiez en début de résumé. Quel mérite à Itro d'avoir un nom à son nom une paracha? C'est quoi son... Qu'est-ce qu'il a fait de bien avant ça?
Alors, bien sûr, donner son nom à la paracha dans laquelle il va y avoir le don de la Torah est encore plus, plus impressionnant, plus exceptionnel. Ça exacerbe un petit peu votre question. C'est non seulement Yitro a une paracha à son nom, mais il aurait pu avoir n'importe laquelle paracha de la Torah. On a choisi de lui donner celle dans laquelle va être donnée la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Yitro? Je l'ai dit, Yitro a réussi à quitter finalement tout le lustre dont il jouissait, toute l'importance qu'on pouvait lui donner en tant que grand prêtre. Donc Yitro était une autorité spirituelle de premier plan dans la ville dans laquelle il habitait. C'était une personne honorée, une personne respectée et qui a accepté de remettre en question tout son mode de pensée et toute la vie qui l'accompagnait, toute la célébrité qui pouvait accompagner ce mode de vie, simplement par quête de vérité. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Être prêt à changer de vie, être prêt à se laisser mépriser finalement par rapport à ce choix, par l'ensemble de son entourage, être prêt en quelque sorte finalement à tout perdre, simplement par quête de vérité et simplement parce qu'on comprend à un moment donné qu'il est nécessaire parfois de se laisser bouleverser. De se laisser bouleverser par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, une fois bien sûr de positif. Alors c'est une bonne question. En fait, Jean, vous posez une bonne question. Pourquoi est-ce que Yitro a été mis en avant par rapport à d'autres personnes qui auraient pu avoir la même démarche? Et d'ailleurs, votre question, elle est posée par un certain nombre de mépharchim qui nous rappellent qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a tout un tas de personnes qui sont venues se rattacher en quelque sorte au clan Israël, mais plus par ce qu'on appelait le Erev Rav, d'ailleurs, qui vont être assez problématiques dans l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'ils vont,
pousser à
créer le Vaudor, et il y a un certain nombre d'influences extrêmement néfastes, mais on sait qu'ils ont été très nombreux à tel point, Jean, que certains estiment parmi nos commentateurs que le nombre de personnes justement appartenant à cette catégorie du Erev Rav qui sont venues vraiment par intérêt en quelque sorte rejoindre le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte étaient aussi nombreux que le peuple d'Israël. Donc c'est pas une poignée d'individus, c'était un nombre très très important d'individus, en tout cas pour certains commentateurs. Donc pourquoi ces personnes-là sont restées dans l'anonymat? Simplement parce qu'elles n'avaient pas les mêmes motivations, elles l'ont fait de manière totalement intéressée, soit bien sûr par la peur de ce à quoi elles avaient assisté, soit par intérêt en se... parce que parfois, bien quand on sent le vent tourner, hein, on essaye d'aller dans sa direction. Yitro, lui, à une démarche qui est totalement désintéressée. Yitro est resté un petit peu à l'écart de tout cela. Il est à Midian.
Alors, justement.
Et il fait cette démarche, est totalement désintéressée. Cette démarche est une démarche qui n'est actée que par la volonté, encore une fois, de Yitro de s'imprégner vraiment de ce que l'on appelle le Emet.
Alors, on voit justement que Yitro est venu avec la femme de Moshe, avec ses enfants. Donc, c'est-à-dire que ni la femme ni les enfants de Moshe n'étaient présents en Égypte lors des miracles que Dieu a fait.
Alors,
c'est exact ou c'est faux?
C'est tout à fait exact. En tout cas, d'après, c'est vrai qu'on peut beaucoup discuter du sens. Alors, vous insistez en fait sur un indice qui nous est donné tout au début de la paracha, Achar Shiluchea. Et c'est sur cet indice que notamment Rashi et un certain nombre de commentateurs vont nous rappeler que même si le texte ne l'avait pas indiqué préalablement, eh bien, la femme de Yitro, Tzipora, et les deux enfants, Eliezer et Gershom, étaient retournés à Midian. Et effectivement, je vous dis, le deuxième verset de la paracha nous dit que Yitro, le beau-père de Moshe, hein, il a pris Tzipora, la femme de Moshe, Achar Shiluchea, après son renvoi. Et c'est ces deux mots, Achar Shiluchea, qui fait dire à nos commentateurs qu'il y a un passage qui n'a pas été cité par la Torah, mais durant lequel, eh bien, Moshe suit notamment, c'est ce que dit Rashi, une discussion qu'il aurait eue avec Aaron. Rappelez-vous que lorsque Moshe est envoyé en mission en Égypte, lorsque Dieu lui a parlé au buisson ardent et qu'il lui demande de retourner en Égypte, vous en rappelez sans doute, Moshe va demander à son beau-père, et on voit donc la relation de grand respect, de grande presque amitié qui existait entre Yitro et Moshe, Moshe va demander à son beau-père la permission de repartir en Égypte avec sa femme et ses enfants, pensant que c'est une bonne chose, qu'il ne doit pas les abandonner, que c'est une bonne chose. Et Rachid nous rappelle que sur, même si ça n'a pas été dit dans le texte, eh bien, sur le chemin, lorsque Aaron va partir à la rencontre de Moshé, Aaron va lui dire « Mais dis-moi, tu es totalement inconscient. Finalement, ils ont la chance d'être mis à l'écart de ce que nous subissons depuis tant d'années. Et toi, eh bien, tu veux maintenant les ramener en Égypte, en quelque sorte dans cette galère. Mais tu es fou. Renvoie-les à Midian, mets-les à l'abri. Toi, viens en Égypte, réaliser la mission qui est la tienne. Et puis, il sera toujours temps pour eux de nous rejoindre une fois que nous serons sortis d'Égypte. »
Donc, c'est une demande d'Aaron.
Donc c'est une demande d'Aaron, d'après d'autres, ça aurait pu également se comprendre comme une demande de Yitro, qui même s'il avait donné dans un premier temps son aval pour laisser la famille partir, eh bien aurait pu se raviser. Il y a vraiment plusieurs manières d'expliquer ce renvoi, ce Achar Shiluchea, mais en tout cas, il semble, d'après la grande majorité des commentateurs, indiquer ici, il y a une autre manière de l'expliquer, hein, que ça aurait peut-être été une démarche de Moshé lui-même finalement, de se dire que pour se consacrer à sa mission, eh bien il devait répudier sa femme et la laisser repartir avec ses enfants, mais d'après la plupart des commentateurs, effectivement, ce Achar Shiluchea signifie que Tzipora et les enfants de Moshé étaient repartis à Midian et donc ont vécu à distance la sortie d'Égypte.
Alors, concernant Yitro, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Moshé, mais tout le peuple le respecte énormément. Pourquoi ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est que dans tout le chapitre qu'on lit, on dit Yitro, le beau-père de Moshé, comme si le nom Yitro ne suffisait pas à lui-même.
Alors effectivement, Khoten Moshé, ici, comme vous soulignez, qui est tout à fait beau-père de Moshé, nous fait en fait comprendre que Yitro est passé du stade où c'était, ça arrive dans, genre c'est quelque chose de très classique dans les familles, est passé du stade où c'était en quelque sorte lui la star, au stade où finalement il se définit maintenant non plus comme Yitro, et ce n'est plus Moshé qui est le gendre de Yitro, mais Yitro qui devient en quelque sorte Yitro qui est le beau-père de Moshé, mais c'est l'inverse, c'est Yitro qui devient le gendre finalement de Moshé. Donc Yitro n'est plus la star en quelque sorte, c'est Moshé, il accepte. C'est ça ce qui est extrêmement noble ici dans la démarche de Yitro, c'est que Yitro, malgré la réputation qui était la sienne, accepte dans la démarche qui est la sienne maintenant, c'est-à-dire de se rallier au clan Israël, il accepte le fait que son gendre l'ait dépassé, que son gendre aujourd'hui soit un modèle, que son gendre soit vraiment un exemple à suivre pour lui et pour l'ensemble du clan Israël. Et donc finalement, Yitro prend plaisir, c'est ce que vraiment souligne le texte ici, c'est qu'il n'y avait rien de dégradant pour Yitro à se définir à partir de maintenant comme étant le gendre de Moshé et à souligner la grandeur qui était celle de Moshé. Finalement, ça fait presque partie de la démarche de conversion ici de Yitro, de se définir non plus en tant lui-même que personnage principal de cette histoire, mais en tant que gendre de Moshé.
Alors, le texte dit que Moshé, Yitro se réjouit.
Vaïchad Yitro.
Voilà, il se réjouit de ce qui s'est passé pour le bien d'Israël. Est-ce que cette réjouissance est sincère véritablement, ou est-ce que parce que sa fille, ses petits-enfants font partie du peuple juif, alors il se réjouit pour eux? C'est quoi la vraie raison de
alors, sa réjouissance? Alors, en fait, ce qui vous fait dire, Jean, que Yitro ne serait pas forcément sincère, vous vous basez sur un Rashi. Il y a un Rashi qui explique ce terme de Yitro de deux manières différentes. Il dit qu'il est un petit peu à double tranchant. Et que en fait cette réaction cutanée qu'a eu Yitro, parce que Yitro a eu en quelque sorte finalement des frissons, la chair de poule, et bien que ça pourrait s'expliquer comme une sorte de malaise que Yitro a éprouvé lorsqu'il a entendu tout ce qui avait été fait aux Égyptiens. Et on n'est jamais à l'aise finalement lorsqu'on entend que des gens dont on peut être proche, aussi bien sur le plan spirituel.
Il faut juste dire juste avant, pour que tout le monde soit d'accord, que Yitro était, avant d'être prêtre à Midian, un des conseillers de Pharaon.
Donc, tout à fait.
Il a vécu dans...
On peut imaginer, bien sûr, qu'il y avait des liens très forts qui existaient entre ces nations. Il y a une certaine forme, il y a toujours une forme aussi de solidarité. Mmh. Donc, Yitro, il est mal à l'aise. Il est en même temps impressionné et en même temps extrêmement heureux de voir que ce peuple qui a tant souffert, et on peut effectivement estimer que Yitro est parfaitement sincère ici. C'est tout simplement un double sentiment qu'il a, à la fois un sentiment de véritable plénitude et joie de voir que ce peuple-là qui a tant souffert est enfin récompensé, mais en même temps, un malaise en voyant les Égyptiens éprouvés. Pour autant, le terme de Vayichad, et tous les commentateurs vont s'y intéresser, vient du mot Chedva, et Chedva, effectivement, c'est la joie, le pshat, on va dire le sens vraiment simple de ce pasouk, le sens premier est qu'effectivement, Yitro, en entendant toutes ces nouvelles, a éprouvé une véritable satisfaction, une véritable joie. Je rappelle qu'on peut également le comprendre Vayichad, un de nos commentateurs nous fait remarquer que Vayichad, ça vient du mot Yichud. Yichud, c'est l'unicité, et que le Vayichad Yitro, c'est le moment où Yitro va proclamer l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et donc certains y voient ici la preuve de la conversion de Yitro. C'est à ce moment-là, Vayichad Yitro, que Yitro a prononcé et a proclamé l'unicité
donc,
de
vous
Dieu.
Vous dites que Yitro a été converti ou s'est converti?
On peut le voir, en tout cas, au travers de ce Vayichad,
qui
peut se comprendre. Non, ce n'est pas dit clairement.
D'accord. Alors, justement, Yitro, on va en parler. Il va voir son gendre Moshe et il lui donne un conseil extrêmement important sur le système judiciaire. À l'époque, Moshe était toute la journée, du matin jusqu'au soir, à donner des informations, à donner des lois. Et là, son beau-père lui dit « Tu vas te tuer, écoute-moi, c'est un peu ça ».
Oui, alors effectivement.
Tu as la tâche, je veux dire.
Exactement, bien sûr, qu'on s'y méprenne pas, bien sûr. Voilà, tu as tout à la tâche, exactement. Mais on le voit, si on étudie bien le texte et qu'on sait lire aussi entre les lignes, ce qui est intéressant, Yitro n'a pas, dans son attitude, de posture condescendante. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que Yitro vient apporter un regard qui est extérieur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est personne n'a eu l'idée avant, c'est que quand on est extérieur, ce n'est pas que personne n'a peut-être pas eu l'idée avant, c'est que lorsqu'on est extérieur, finalement, eh bien, on voit beaucoup mieux les choses. Être extérieur à un problème, c'est pouvoir prendre de la hauteur, c'est pouvoir prendre du recul par rapport aux choses, et c'est parfois avoir un regard neutre. Et avoir ce regard neutre, eh bien, permet d'avoir souvent des conseils qui sont beaucoup plus pertinents que lorsqu'on est soi-même partie prenante du problème. Et Yitro avait cette grandeur, et à la fois, il avait aussi, même si Yitro, de par les fonctions qui étaient les siennes, en tant que prêtre idolâtre, n'avait peut-être pas pris le bon chemin, mais il avait malgré tout, et ça il faut lui reconnaître, été un homme important, un homme qui savait organiser les choses. Tout n'est pas mauvais à prendre finalement, et même lorsque on n'a pas forcément pris le bon chemin, encore une fois, dans sa manière d'appréhender le monde, eh bien pour autant, on peut être une personne douée en termes d'organisation.
Alors, M. de Grand Rabbin, il y a quand même une question qui se pose. Yitro est donc allé avec Moshe. Pourquoi il a décidé de quitter le camp et de retourner à Midian?
Alors, c'est effectivement une bonne question. C'est que cette question-là sera abordée plus loin. Et en fait, il n'est pas clair. Il n'est pas clair, c'est dans la Torah. La posture de Yitro, est-ce que Yitro est resté, est-ce que Yitro est parti, quelque chose d'assez flou. Yitro, encore une fois, a eu une démarche qui était tout à fait qui a été tout à fait sincère. Il a compris que il ne pouvait pas rester insensible à l'appel qui lui avait été fait. Voilà, pour autant, là, Yitro avait d'autres considérations. Voilà, il faut comprendre finalement que la grandeur, sans doute, je veux bien insister sur le fait que la grandeur de Yitro, et ce qui lui a permis de donner son nom à sa paracha, c'est de comprendre que parfois, lorsqu'on entend, je l'ai dit encore une fois, lorsqu'on entend certaines choses qui sont de véritables appels à bouleverser son existence, à essayer de modifier quelque chose dans une existence qui peut être considérée comme particulièrement confortable, eh bien, il faut être capable de réagir. Et ce qui est important de cette paracha, ce qui est souligné, c'est la réaction de Yitro au moment où il entend. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent.
Alors, dans la paracha, on apprend que Dieu décide de descendre, on le pousse surtout à descendre sur terre. Mais pourquoi il descend, puisque on dit juste avant que le peuple a accepté ses 10 commandements, alors ils ont accepté, pourquoi je vais descendre?
Il y a une volonté de proximité, vous l'avez bien compris. Oui, Kadosh Baruch Hu a montré la proximité qu'il avait avec le peuple. Il va d'ailleurs se définir dans les 10 commandements, c'est un thème très très classique. Et lorsqu'il dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, il ne se définit pas comme un Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est une question très classique, notamment dans le Kuzari, mais comme un Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi ? Si je me définis déjà comme un Dieu, comme le Dieu de l'univers, eh bien je dois me définir comme le Dieu qui a créé justement cet univers. Pourquoi réduire ma posture de Dieu en un Dieu qui a fait sortir le peuple de la terre d'Égypte ? Tout simplement parce que il se définit ici comme un Dieu qui s'intéresse à son peuple, comme un Dieu qui s'intéresse à l'histoire de l'humanité, pas simplement à son peuple, mais à l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un Dieu qui crée et qui abandonne son projet, mais un Dieu qui est partie prenante de son projet. Et donc un Dieu ici qui descend, c'est un Dieu qui montre voilà, qu'il est capable d'aller à la rencontre de son peuple.
Alors il descend avec le tonnerre, le feu, etc., la fumée. Enfin,
c'est Hollywood.
C'est Hollywood, j'allais le dire, mais je ne voulais pas le dire. Justement, vous l'avez... c'est quoi cette idée de descendre comme ça avec le feu, la lumière? On a vu qu'il a fendu la terre, qu'il a fait des miracles en veux-tu en voilà. Avait-il encore besoin de montrer sa magnificence?
Alors on peut comprendre en réalité que cette manifestation, c'est une manifestation naturelle en réalité. Ce n'est pas voilà, Dieu ne rajoute pas des artifices, mais c'est que lorsque l'on donne la Torah, voilà, la Torah c'est une Torah de feu, c'est une Torah qui brûle, donc c'est une Torah qui, on va dire, de manière tout à fait naturelle, voilà, est accompagnée lorsqu'on la donne. D'un tonnerre, d'éclairs, etc. Ce sont des, on va dire, des artifices qui sont propres à ce que représente la Torah elle-même. Ils n'ont pas été rajoutés par Dieu simplement pour essayer de donner un côté spectaculaire à la chose. Mais vous faites bien de remarquer, Jean, qu'effectivement, ce côté spectaculaire n'a pas forcément porté chance au clan Israël. Et d'ailleurs, un Midrash nous dit que c'est justement parce qu'il y avait un côté un peu trop spectaculaire et un peu trop, finalement, veux-tu en voilà, et un côté où on en met plein les yeux, que les premières louchotes ont été, les premières tables de la loi ont été brisées. Ah bon ? Et que les deuxièmes tables de la loi, qui elles ont été données de manière beaucoup plus discrète, ont eu le mérite de perdurer dans le temps. Donc finalement, ce côté très spectaculaire aurait pu, j'ai envie de dire, un petit peu porter l'œil, voilà, sans vouloir faire trop ressortir mon côté séfarade, mais que dans ce faste, eh bien, il y avait peut-être quelque chose qui n'a pas forcément porté chance au clan Israël. Et que parfois, lorsqu'on veut qu'un projet puisse s'inscrire dans la durée, il faut savoir faire les choses de manière un peu plus discrète.
Le peuple est monté au mont Sinaï, et pourtant, ce mont-là, il n'a aucune sainteté, alors qu'il a été un endroit où il y a eu la Kedat Israq, où il y a eu le don de la Torah. Pourquoi il n'a pas eu ce don-là et pourquoi on a choisi alors ce mont Sinaï?
Ce mont Sinaï, on l'a choisi, on le sait, justement, de par, j'ai envie de dire, presque son insignifiance. C'est justement parce que cette montagne-là ne s'est pas mise en avant, comme nous le rappelle le Midrash, où toutes les montagnes se sont disputées, parce qu'elles voulaient qu'on donne, là, bien sûr, c'est ici quelque chose de très allégorique, mais il y a une volonté ici de faire passer un message très très fort. C'est que la Torah ne peut s'imprégner qu'à l'intérieur de celui qui est capable de faire preuve d'une modestie, se comporter de manière humble. Moshe Rabbeinu représentait cette modestie, c'est la raison pour laquelle lui-même a été choisi pour mener à bien cette mission. Et de la même manière, eh bien, la Torah ne pouvait pas être donnée, finalement, on sait que le mont Sinaï a fleuri au moment où il a été choisi, mais lui-même n'a à aucun moment revendiqué cette volonté que la Torah soit donnée sur lui, parce que tout simplement, eh bien, cette montagne était une petite montagne, tout à fait modeste, et qu'elle convenait parfaitement aux valeurs qu'incarne la Torah.
J'ai vu, on n'aura pas le temps de parler des dix commandements en détail, c'est dommage, mais je vous pose une question plus sur une réponse du grand rabbin, si vous voulez bien. Avant de venir, j'ai demandé à plusieurs personnes de me citer les dix commandements. Personne n'est arrivé, on est arrivé à 7, 8.
Je ne sais pas à qui vous avez posé la question.
Non, mais c'est quelque chose que vous remarquez, que les dix commandements ne sont pas connus. On connaît les grands, pas tuer, pas voler. Mais les trois premiers, ils sont très compliqués à retenir.
Alors, j'ai envie de dire, ça dépend à qui on pose la question, parce que les commandements restent, je pense, quand même quelque chose d'assez connu et assez classique. Et je pense que si on demande à des personnes qui ne sont même pas forcément très versées dans l'étude de la Torah, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'entre elles qui seront capables de donner la liste des dix commandements. Et vous avez raison de remarquer que certains bien sûr, parmi les 10 commandements, sont beaucoup plus connus que d'autres. Les trois premiers de gauche, quand on vous dit ne pas tuer, ne pas voler, ça c'est quelque chose de bien connu. Les premiers commandements, qui sont des commandements qui sont plus intellectuels, sont peut-être un peu moins célèbres, parce qu'on a parfois du mal à les assimiler comme des commandements. Dire que je suis Hachem ton Dieu est un commandement, oui, je suis Hachem ton Dieu, c'est cette conscience de l'unicité de Dieu. C'est un commandement intellectuel, c'est un commandement qui concerne directement finalement le cœur et l'esprit, et c'est peut-être quelque chose qui parle un petit peu moins aux gens. Mais pour autant, il y a une symétrie qui est très intéressante, que souligne notamment le Rav Hirsch, c'est qu'on commence avec justement la tête, avec le cœur en tout cas, avec Anochi Hashem Elokecha, puis la bouche, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Après, ce sont les actions, avec l'observance du Shabbat, etc., le respect des parents. Et puis dans le côté gauche, c'est l'inverse, c'est pour ça qu'il y a une symétrie. On continue avec les actions, ne pas tuer, ne pas voler. Ne pas commettre d'adultère, et puis après, de nouveau, on en revient à la bouche, ne pas porter de faux témoignages, et puis on termine de nouveau avec le cœur, tu ne convoiteras pas. Donc c'est vraiment cette symétrie, elle est très intéressante, et elle peut être un moyen mnémotechnique pour bien se rappeler de ces 10 commandements.
Alors on va passer 10 commandements, sinon on laissera la journée entière, et il faut qu'on fasse Shabbat. Moshe est obligé de devenir le traducteur, entre guillemets, entre Dieu et le peuple, c'est-à-dire qu'au bout du premier commandement, le peuple d'Israël dit « Arrête-toi, il faut que Moshe nous traduise ». Il y a vraiment que Moshe qui pouvait entendre ce que Dieu disait.
Alors effectivement, on sait que Moshe a parlé à Dieu « Panim el Panim » et que le peuple, après avoir entendu les deux premiers commandements, on dit que les chamottes, les âmes quittaient le corps et qu'on était obligé de les ranimer à chaque fois pour qu'ils continuent à vivre. Oui, entendre directement la parole d'Akadosh Baruch Hu, déjà, c'est impossible maintenant à la radio, en quelques secondes, d'expliquer ce que veut dire entendre directement la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu. Mais effectivement, il faut une sacrée préparation, on va dire.
Et ils avaient 40 jours, ils ont vu des manitiotes.
Malgré tout, ce n'est pas donné au commun des mortels. Et on va dire que le niveau que Moshe avait réussi, lui, à atteindre, et d'autant plus que Moshe n'était pas sa première expérience.
Ça veut dire que la Torah n'est pas donnée au peuple, elle est donnée à des personnes.
Elle n'est justement pas donnée à des malachim. La Torah est donnée à tout le monde, effectivement. Mais chacun devait pouvoir la recevoir à sa manière. Effectivement, tout le monde n'a pas reçu les choses de la même manière. La Torah est donnée, chacun la reçoit selon sa sensibilité et selon, on va dire, la manière dont spirituellement il s'est préparé à recevoir cette Torah.
Dans la fin de la paracha, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que Moshe est obligé de rassurer le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, rassurer le peuple de la part de Moshe ?
Eh bien, Moshe, on l'a dit, Moshe, lui, a accédé à un niveau de prophétie tout à fait incroyable. Et le peuple a été particulièrement bouleversé par l'expérience qu'il vient de vivre. On l'a dit, c'est une expérience qui à la fois est spectaculaire, mais qui peut être un petit peu traumatisante. Et c'est par rapport à cela que Moshe doit rassurer le peuple. Voilà, cette Torah qui a été donnée, ce n'est pas une Torah qui est là pour écraser le peuple, ce n'est pas une Torah qui est là pour les mettre en difficulté, ce n'est pas une Torah qui est là pour, en quelque sorte, faire de leur vie un véritable enfer, mais au contraire, c'est une Torah qui va leur permettre de s'épanouir, c'est une Torah de vie. Et ça a été un petit peu finalement le rôle de Moshe, et même au travers de toutes ces années qui vont suivre, de préparer finalement le peuple à cela, à cette nouvelle vie à laquelle il va devoir se préparer en entrant en Eretz Israël. Une vie qui est une vie où ils vont devoir apprendre l'autonomie, une vie en même temps où cette autonomie sera totalement imprégnée de Torah, où cette Torah ne doit en aucun cas être vécue comme quelque chose d'étouffant, mais au contraire comme quelque chose d'épanouissant.
Aujourd'hui, c'est la naissance du peuple juif dans la Torah, c'est là qu'on crée un peuple ?
Tout à fait. Ouais, on peut dire que le peuple d'Israël prend naissance, effectivement, au moment où il reçoit la Torah. Il y a un embryon, il y a une gestation qui se fait au moment de la sortie d'Égypte, mais on va dire que l'accouchement se fait au moment de Matan Torah.
Merci Monsieur Grand Rabbin, je souhaite un bon Shabbat. Merci à Lucas pour la réalisation technique. À vous tous et à vous toutes. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yudelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift, a spiritual life.